Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Mouamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition matinale du jeudi 7 novembre 2024. Voici le sommaire.
Si je concède ma défaite à cette élection, je ne renie pas le combat qui a été le carburant de cette campagne.
La vice-présidente Kamala Harris a reconnu sa défaite et exhorté ses soutiens à ne pas désespérer dans un discours à l'université Howard dans la capitale Washington. Elle a promis de faciliter le transfert du pouvoir au président Donald Trump, qui réussit ainsi un comeback historique qui continue d'alimenter les débats.
Je pense que son message est très simple, c'est l'économie, l'immigration et la sécurité pour le monde.
À suivre, l'analyse de Joseph Slavik Soto, stratégiste politique et membre de la campagne de Donald Trump. À suivre également plusieurs réactions à la victoire de l'ancien président ici aux États-Unis et à l'étranger.
Les Américains ne sont pas prêts pour moi. Je pense qu'ils ne sont pas prêts à élire une femme présidente.
Vers la fin de cette édition, nous retrouverons Eric Manirakiza pour la page des sports. Mais pour commencer, voici la page spéciale consacrée à la présidentielle américaine. L'ancien président Donald Trump a réussi mercredi son pari de revenir à la Maison-Blanche grâce à une victoire sans appel. En attendant les résultats de 5 derniers États, le républicain cumule un total de 292 grands électeurs contre 224 pour sa rivale. Le point avec Eric Manirakiza.
L'ancien président Donald Trump a raflé les deux États disputés de Caroline du Nord et de Géorgie avant que la Pennsylvanie ne lui serve de tremplin et le Wisconsin ne vienne enterrer les derniers espoirs des démocrates. Et avec sa victoire dans le Michigan, Donald Trump remporte le Grand Chelem dans les trois États décisifs du nord du pays, qui étaient pourtant considérés avant mardi soir comme favorables à la candidate démocrate Kamala Harris. Le pays s'attendait à de longues journées d'attente des résultats, tant les sondages donnaient Kamala Harris et Donald Trump au coude à coude. Mais il n'a finalement fallu que quelques heures pour connaître l'issue de la présidentielle américaine. Le seuil est de 270 pour remporter ce scrutin au suffrage indirect. Et Donald Trump semble aussi en passe de remporter le vote populaire, ce qui serait une première pour lui. Outre la Maison-Blanche, les républicains reprennent aux démocrates la majorité au Sénat et pourraient conserver le contrôle de la Chambre des représentants. Le contrôle de la Chambre des représentants est désormais l'enjeu majeur et aura un impact considérable sur l'orientation des quatre prochaines années, souligne Julian Zelizer, professeur d'histoire à l'université Princeton.
Pour sa part, l'ex-candidate démocrate Kamala Harris s'est engagée hier mercredi à aider Donald Trump dans le transfert du pouvoir après la victoire sans appel du républicain dans la course à la Maison-Blanche. Michel Joseph nous en dit plus.
Nous devons accepter les résultats de cette élection, a déclaré la vice-présidente lors d'un discours de concession devant ses supporters rassemblés à Howard University. Elle a appelé ses partisans à continuer à se battre après sa défaite à la présidentielle américaine face au républicain Donald Trump. Le résultat de cette élection n'est pas ce que nous voulions, pas ce pourquoi nous nous sommes battus, pas ce pourquoi nous avons voté. La lumière de la promesse de l'Amérique brillera toujours tant que nous n'abandonnons pas et que nous continuons à nous battre. Dans son discours de victoire, mercredi, Donald Trump, qui prêtera serment le 20 janvier, a lancé un appel à l'unité. Le républicain ne s'est pas exprimé publiquement depuis, mais il a, d'après son équipe, réitéré la nécessité d'unifier le pays lors d'un échange téléphonique avec Kamala Harris. Barack Obama a félicité Donald Trump pour sa victoire à l'élection présidentielle américaine. Ce n'est évidemment pas le résultat que nous espérions, a déclaré l'ancien président démocrate dans un communiqué. Mais vivre dans une démocratie, c'est reconnaître que notre point de vue ne l'emportera pas toujours. Selon l'exécutif américain, Donald Trump a également reçu les félicitations de Joe Biden et l'a invité à la Maison-Blanche. Le dirigeant démocrate de 81 ans s'adressera à la nation ce jeudi pour évoquer les résultats de l'élection.
Dans son discours prononcé à l'université Howard face à ses partisans, dont certains étaient en larmes, Madame Harris les a exhortés à ne pas désespérer et à croire aux valeurs qui ont été le carburant de sa campagne. Écoutons cet extrait.
Alors, à tous ceux qui nous regardent, ne désespérez pas. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. C'est le moment de retrousser nos manches. C'est le moment de s'organiser, de se mobiliser et de rester engagé au nom de la liberté, de la justice et de l'avenir que nous savons tous que nous pouvons construire ensemble. Dans notre nation, nous devons être loyaux, non pas à un président ou à un parti, mais à la Constitution des États-Unis. Nous devons également être loyaux envers notre conscience et notre Dieu. Mon allégeance à ces trois valeurs est la raison pour laquelle je suis ici, pour dire que si je concède ma défaite à cette élection, je ne renie pas le combat qui a été le carburant de cette campagne.
C'était le discours prononcé, un extrait du discours prononcé par Kamala Harris à l'université Howard. La victoire de Donald Trump a été rendue possible par son discours simple et incisif sur la situation économique et les problèmes migratoires, notamment pour une analyse, Eddie Sango a joint Joseph Slavik Soto, stratégiste politique et membre de l'équipe de campagne de Donald Trump.
Je pense que c'est très simple. Il a fait une très bonne disciplinée campagne avec des messages qui sont très simples. C'est le message de l'immigration, l'économie et la sécurité du monde. Je pense que franchement, ce message, les trois points sont très simples et très clairs. Il a gagné son 12e mandat. Quand tu penses, il a gagné la nomination de le Parti républicain trois fois. Mais de le trois fois, c'est la 12e fois qu'il a gagné. So, je pense que son message est très simple. C'est l'économie, l'immigration et la sécurité pour le monde.
Maintenant qu'il a gagné, quels sont les principaux changements qu'on peut attendre de son prochain gouvernement?
Le programme domestique, hein, l'Amérique first. Mais le 12e, je pense, c'est notre importance sur les relations stratégiques économiques entre l'Amérique. Je pense que l'économie, c'est la priorité aujourd'hui. Ce n'est pas des affaires social, je pense que c'est l'économie et la sécurité qui sont les priorités de président Trump pour son 12e mandat.
Au niveau international, qu'est-ce que le monde peut attendre et surtout en particulier l'Afrique?
Oui, particulièrement pour l'Afrique, je pense que c'est la sécurité et l'économie. Je pense que ça, c'est la deux priorités entre les États-Unis, que le minéral stratégique est critical, le pétrole, l'agriculture. Je pense aujourd'hui que, franchement, c'est l'économie et sécurité. La gouvernance, c'est importante, mais je pense que les Américains cherchent des partenariats qui sont la priorité, c'est la sécurité et l'économie. Et les autres affaires sociales sont pas la priorité aujourd'hui. Je pense pour l'Afrique, c'est un grand changement et la relation, c'est plus directe et
Plusieurs Africains d'origine espèrent que la politique étrangère de Donald Trump permettra d'améliorer les relations entre les États-Unis et le continent noir, tout en permettant aux pays africains de se développer économiquement. Écoutons le point de vue de Solange Mafouta d'Ensemble pour la République en RDC. Elle a été jointe par Nathalie Barge.
Ce que j'attends de ce second mandat, c'est la défense réelle des valeurs de la démocratie et de la liberté pour l'Amérique et pour le monde. En ce qui concerne le Congo démocratique, je sais qu'il a cité les immigrés africains en général et congolais en particulier comme des menaces à la sécurité des citoyens américains. Il doit donc soutenir une meilleure gouvernance au Congo afin que les richesses du Congo soient mieux redistribuées aux Congolais pour qu'ils puissent rester chez eux. De nombreuses personnes ignorent que les Congolais fuient la guerre, une guerre causée par les multinationales qui exploitent abusivement le sous-sol congolais. Nous attendons de lui qu'il sanctionne aussi les gouvernants congolais qui pillent leur pays et réduisent la population à la misère la plus profonde. Les États-Unis redoutent la Chine, donc on attend du président Donald Trump qu'il appuie les investissements américains au Congo afin de permettre la transformation des minerais congolais au Congo et éviter de les livrer à l'état brut à d'autres puissances. Et nous espérons qu'il aidera le Congo à reconstruire une armée plus solide pour assurer la stabilité de la région et lutter efficacement contre le terrorisme qui menace le Congo et la paix dans le monde. Et pour finir, qu'il accentue la coopération humanitaire. La paix des Américains et des autres pays est liée d'une certaine manière à la paix des Congolais.
C'était Solange Mafuta, politicienne et entrepreneur, jointe à Kinshasa. Écoutons à présent l'avis de la féministe guinéenne Yolande Camara, jointe elle aussi par Nathalie Barge.
C'est sûr que dans la vie, il faut persévérer. En tout cas, il nous l'a prouvé. Il s'est jamais découragé. Malgré tous les obstacles qui ont pu se présenter, il n'a jamais baissé les bras. Il y a cru jusqu'au bout et il a atteint son objectif. Donc pour lui, c'est vraiment une réussite. Par contre, les Américains sont pas prêts. Pour moi, je pense qu'ils sont pas prêts à élire une femme présidente. Je le pensais déjà lorsque c'était Donald Trump face à Hillary Clinton. Aussi, les femmes, c'est pas facile quand elles occupent ces postes. On est moins tolérant avec une femme qu'un homme à ces postes de responsabilité. La moindre erreur est grandement médiatisée et le lynchage est beaucoup plus fort que lorsque c'est un homme. Je me rappelle du cas de Pauline Marois, qui avait été la première femme premier ministre du Québec. Tout le monde sait comment ça s'était terminé pour elle. Et donc, c'est pas facile.
De très nombreux dirigeants à travers le monde ont réagi et félicité Donald Trump après sa victoire. Synthèse de messages internationaux adressés au président élu des États-Unis avec Jacques Aristide.
De la France à l'Arabie Saoudite, en passant par l'Ukraine, les dirigeants mondiaux ont unanimement félicité Donald Trump. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a insisté sur l'importance de la coopération entre les États-Unis et les Nations Unies. J'apprécie l'engagement du président Trump en faveur de l'approche « la paix par la force » dans les affaires mondiales. C'est exactement le principe qui peut concrètement rapprocher l'Ukraine d'une paix juste, a réagi le chef de l'État ukrainien Volodymyr Zelensky, se félicitant de l'impressionnante victoire de Donald Trump. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a salué le plus grand retour de l'histoire. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a exprimé son aspiration à travailler avec le président Trump pour la paix et la sécurité dans la région. Il se dit convaincu que les États-Unis soutiendront les aspirations légitimes des Palestiniens. Le chef de l'État sud-africain, Cyril Ramaphosa, a dit se réjouir de la poursuite de la coopération avec les États-Unis, rappelant par ailleurs que l'Afrique du Sud va assurer la présidence du G20 en 2025. Ensemble, nous pouvons coopérer davantage sur le plan économique, promouvoir la paix et répondre aux défis mondiaux, a affirmé le président nigérian Bola Tinubu. Nous respectons le choix du peuple américain et adressons nos félicitations à M. Trump pour son élection à la présidence américaine, a écrit le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué. Le président russe Vladimir Poutine a quant à lui fait savoir qu'il ne réagirait pas à l'élection de Donald Trump.
C'est ici que se referme cette page spéciale consacrée aux élections américaines, mais ne quittez pas, dans quelques instants, la suite du journal. Vous écoutez VOA Afrique, l'édition matinale du Monde aujourd'hui. Mouhamadou Oumfa, toujours en votre compagnie. À présent, quelques faits marquants de l'actualité. Au Soudan du Sud, 22 personnes ont été tuées dans une attaque mercredi par des voleurs de bétail dans l'état d'Équatoria central. Des éleveurs de bétail ont, selon des responsables locaux, été attaqués lors d'un marché dans la localité de Mogiri à 2h du matin, heure locale, 0h GMT, par des jeunes armés de l'état voisin de Jonglé. Le gouverneur de Jonglé a appelé au désarmement des civils et exhorté les jeunes de sa zone administrative à cesser de piller le bétail et de s'entretuer tués. Les attaques d'éleveurs de bétail sont fréquentes dans le pays ravagé par les violences. La tension régnait mercredi à Maputo à la veille d'une marche de la liberté à l'appel de la principale figure de l'opposition au Mozambique. Après des semaines de manifestations contestant les résultats des dernières élections, ce pays d'Afrique australe est plongé dans une grave crise politique depuis que les autorités électorales ont annoncé le 24 octobre que le parti Frelimo, au pouvoir depuis près de 50 ans, avait remporté le scrutin présidentiel et parlementaire du 9 octobre, arrivé second et avec officiellement 20% des voix à la présidentielle derrière Daniel Chapo. L'opposant Venancio Mondlane revendique la victoire. Selon l'ONG Human Rights Watch, les forces de sécurité ont tué au moins 18 personnes en réprimant les manifestations depuis le vote. Au Rwanda, le ministère de la Santé a déposé un projet de loi visant à autoriser les adolescentes à partir de 15 ans à avoir accès aux services de santé reproductive, notamment à la contraception pour limiter les grossesses non désirées. La loi réglementant les services de santé présentée au Parlement mardi doit être discutée et votée dans les prochains jours. Elle devrait se heurter à des voix y étant opposées dans ce pays conservateur. En 2022, le Parlement avait rejeté une initiative similaire selon le directeur exécutif de l'ONG Initiative pour le développement de la santé qui a participé à la rédaction du projet de loi. Le prince William a récompensé mercredi au Cap en Afrique du Sud 5 projets environnementaux novateurs comme l'un transformant la chaleur des cimenteries en électricité ou un autre fabriquant des glacières électriques et à énergie solaire à l'occasion de la 4e édition de son prix Earthshot Prize. 5 initiatives ont reçu 1 million de livres pour la 4e édition de ce prix. Ce continent, alors qu'il est celui contribuant le moins au réchauffement climatique, y est le plus vulnérable, a rappelé le prince de Galles.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le premier ministre israélien et le président élu américain Donald Trump ont discuté mercredi au téléphone de la menace iranienne dans la foulée de la victoire du candidat républicain. La conversation entre messieurs Trump et Netanyahou a été amicale et cordiale. Les deux dirigeants ont convenu de coopérer pour la sécurité d'Israël et discuter de la menace de l'Iran qui soutient également le Hamas selon le bureau de monsieur Netanyahou. Naïm Qassem, le nouveau chef du Hezbollah, soutenu par Téhéran, avait affiché sa détermination à poursuivre le combat contre Israël malgré les coups infligés à son mouvement depuis que l'armée israélienne a réorienté contre lui la guerre qu'elle mène depuis plus d'un an contre le Hamas palestinien. Le premier ministre australien a annoncé ce jeudi vouloir interdire les moins de 16 ans d'accéder aux réseaux sociaux. Les entreprises de la tech et les réseaux sociaux auront la responsabilité de s'assurer que les utilisateurs ont l'âge requis sous peine d'amende, a déclaré le chef du gouvernement Anthony Albanese aux journalistes. Monsieur Albanese avait annoncé en septembre un projet en ce sens, mais l'âge minimum n'avait pas encore été tranché. Le dirigeant travailliste a fait savoir que la mesure serait présentée aux dirigeants des États et territoires australien cette semaine avant d'être soumise au Parlement fin novembre. L'Allemagne entre ce jeudi dans une ère de grande incertitude après l'éclatement de sa fragile coalition gouvernementale. Cette coalition hétéroclite qui unissait à gauche sociaux-démocrates et écologistes aux libéraux du FPD à droite a volé en éclats suite au limogeage mercredi soir du ministre des Finances et chef de file des libéraux Christian Lindner. En cause, la profonde divergence entre les deux camps sur la politique budgétaire et économique à suivre. Le chancelier a annoncé qu'il allait ouvrir la voie à des élections anticipées dans le pays en se soumettant mi-janvier à un vote de confiance. Et puis les partisans de l'ancien président bolivien Evo Morales ont annoncé mercredi une trêve de 72 heures pour des raisons humanitaires. Ils avaient commencé à bloquer les routes le 14 octobre pour dénoncer une persécution judiciaire de leur leader visé dans une enquête pour le viol présumé d'une adolescente de 15 ans. Les tensions se sont aggravées vendredi lorsque 200 militaires ont été pris en otage dans 3 casernes par des partisans de M. Morales selon les autorités. L'annonce de cette trêve intervient alors que les forces de l'ordre sont parvenues à débloquer ces derniers jours plusieurs axes cruciaux. Selon l'administration des autoroutes boliviennes, plus aucun blocage ne subsistait mercredi soir dans ce pays, alors qu'au plus fort de la crise, jusqu'à 24 points de blocage avaient été signalés. l'actualité à présent, les dossiers du jour. Le retour de l'ex-président américain Donald Trump à la Maison-Blanche ne passe pas inaperçu en Côte d'Ivoire, où certains Ivoiriens ont veillé dans la nuit de mardi à mercredi pour suivre les résultats. Notre correspondant à Abidjan, Ange Nomenyo, a recueilli les avis de quelques-uns. Voici son reportage.
La nouvelle est tombée. Donald Trump a remporté l'élection présidentielle aux États-Unis. En Côte d'Ivoire, ils sont nombreux à saluer le processus démocratique dans lequel ces élections se sont déroulées. Arthur Benga, analyste politique ivoirien.
On ne peut qu'être admiratif, hein, même si c'est un beau système, une vieille démocratie. N'oublie pas qu'en 2020, elle a connu quand même des soubresauts. Et lors de l'élection, se nous reclame.
Gervais Bouga, militant des droits de l'homme.
Écoutez, moi j'ai toujours été fasciné par la démocratie américaine. Et c'est vrai que pour une fois, j'ai vu un peu les Américains craindre eux-mêmes pour leur démocratie. Et cela fait pratiquement un certain temps depuis l'arrivée de Trump qui bouscule pratiquement toutes les lignes. Mais on est toujours fasciné. Et vous allez voir que le ciel ne va pas tomber sur l'Amérique. Hein, et l'Amérique va continuer. C'est ça qui nous fascine. Et c'est ce que nous, Africains, nous devons pouvoir copier. La démocratie ne sera jamais et ne va jamais être la fin du monde.
À moins d'un an de l'élection présidentielle, certains Ivoiriens souhaitent que leur pays, qui a connu une crise post-électorale meurtrière, ait le même processus. Joël Stéphane Niakale, américano-ivoirien.
Je prie fort, j'aimerais aussi que ce même atmosphère, ce même engouement et ce même désir se répète aussi dans mon pays de naissance. Nous sommes déjà à moins d'un an aussi de nos prochaines élections présidentielles, qui sont des élections très attendues pour une nouvelle génération, pour un nouveau régime, pour une nouvelle vision. Et je veux vraiment qu'on copie le modèle américain pour qu'on vote en toute discipline, pour que les résultats soient connus en toute transparence. C'est vraiment mon souhait pour mon pays.
Après l'annonce des résultats, un petit déjeuner a été organisé ce matin à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Jessica Davis-Ba, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire.
Ensemble, nous célébrons ces valeurs qui nous unissent en tant que nation démocratique. Aujourd'hui, nous célébrons le processus démocratique à travers lequel les citoyens font entendre leur voix. Les élections sont un témoignage de principes de démocratie, la transparence et l'inclusion des principes qui sous-tendent une société florissante.
En Côte d'Ivoire, beaucoup d'Ivoiriens avaient prédit la victoire de Donald Trump. Maintenant, ils espèrent que son retour à la Maison-Blanche va mettre un terme au conflit russo-ukrainien et à la guerre au Moyen-Orient. Ange Bichonomayon pour VOA Afrique, à Abidjan.
Au Gabon aussi, le résultat de la présidentielle américaine fait l'objet de divers commentaires. La victoire de Donald Trump, vue de Libreville, c'est avec notre correspondant sur place, Ismaël Obianzi.
Moi, je pense que c'est une bonne chose. Donald Trump, c'est pour moi un bon président. Et nous espérons que, voilà, avec son arrivée.
Qu'est-ce que ça apporte à l'Africain que vous êtes?
Les États-Unis se portent bien, justement. Le reste du monde va bien se porter. Voilà. Parce qu'on dépend des États-Unis, c'est la première puissance. C'est eux qui déterminent la trajectoire empruntée.
Abdourahmane, vous êtes taximan. On vous voit avec le drapeau américain dans votre taxi. Donald Trump est de retour au pouvoir aux États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez?
Et en fait, pour moi, je pense que c'est pas normal parce que Donald Trump, il avait déjà géré. Il avait déjà dirigé, il doit laisser à quelqu'un d'autre. Et c'est aussi pour lui. Parce que nous, on réalise que Donald Trump, avec lui, il n'aime pas les étrangers, en fait, surtout les Noirs. Donald Trump au pouvoir, on a constaté qu'il y avait beaucoup de guerres, dont les trucs, les racistes, en fait, parce qu'on a vécu comment on a tué un Afro-Américain et il était là au pouvoir.
La réélection de Donald Trump sera peut-être la bienvenue pour certains pays, que ce soit en Afrique ou encore en Europe.
Sur quel plan?
Bon, je pense que sur le plan économique, je pense bien. Et ça sera peut-être mauvais pour certains pays en Afrique ou en Europe qui ont certainement pas pu bénéficier par sa politique. Voilà. Et ça a certainement pénalisé certains pays dans le monde entier, on va dire.
Vous pensez à quel pays?
Je parle en termes général.
Je pense que c'est une opportunité pour l'Afrique parce que Trump n'a jamais été de ceux qui infantilise l'Afrique. Au contraire, il a plutôt dit aux Africains qu'il faut qu'ils soient responsables et qu'ils s'occupent en priorité de leur développement, de leur, que ce soit économique, culturel, etc. Et il n'est pas le genre de dirigeant qui veut donner le biberon aux Africains. Donc non, ce n'est pas à voir comme une menace, mais plutôt comme une opportunité.
À présent, l'actualité sportive, c'est avec Eric Maniakiza. Salut Eric.
Bonjour Mohamedou.
Le Paris Saint-Germain battu à domicile par l'Atlético.
Le PSG a été battu mercredi à domicile en Ligue des Champions par l'Atlético Madrid de 1, encaissant un but dans le temps additionnel après avoir gâché nombre d'occasions en deuxième période. Le club parisien stagne à 4 points après 4 journées dans la zone rouge des équipes potentiellement éliminées dès la phase de Ligue.
Brest s'impose logiquement 2-1 à Prague face au Sparta.
Le stade brestois a fait un énorme pas vers les barrages d'accession en huitième de finale de la Ligue des Champions en allant s'imposer 1-1 à Prague face au Sparta mercredi dans le cadre de la quatrième journée de la phase de Ligue. Les Tisef, qui découvrent la Champions League, occupent la quatrième place du classement provisoire, 10 points avec un bilan de 3 victoires et 1 nul, avant d'affronter Barcelone le 26 novembre.
Barcelone corrige l'étoile rouge de Belgrade.
Barcelone a battu l'étoile rouge de Belgrade 5-2 mercredi en Serbie en Ligue des Champions grâce notamment à un Robert Lewandowski impérial, auteur d'un doublé. L'étoile rouge a donc maintenant perdu tous ses matchs depuis le début de la compétition alors que le Barça compte 3 victoires pour une défaite avec 15 buts marqués.
L'Inter Milan domine Arsenal 1-0 et reste invaincu.
L'Inter Milan a dominé Arsenal 1-0 au stade Giuseppe Meazza mercredi au terme de la quatrième journée de Ligue des Champions et reste invaincu dans la compétition. Les Gunners, en manque de confiance en Première Ligue, enregistrent leur première défaite en Champions League en saison et dévissent en milieu de tableau.
Le Bayern Munich s'impose contre le Benfica Lisbonne 1-0.
Le Bayern Munich s'est imposé 1-0 contre le Benfica Lisbonne grâce à un but de Jamal Musiala mercredi soir dans son stade de l'Allianz Arena lors de la quatrième journée de la Ligue des Champions. Avec 6 points au compteur, les hommes de Vincent Kompany remontent à la 17e place après 2 revers consécutifs en déplacement contre Aston Villa 1-0 et le FC Barcelone 4-1. Toujours dans la Ligue des Champions, Mohamedou, l'Atalanta Bergame a gagné contre Stuttgart 2-0, tandis que RB Salzbourg a battu Feyenoord 3-1.
Neymar blessé et forfait pour au moins 1 mois.
L'attaquant brésilien de Al Hilal, Neymar, souffre d'une déchirure du tendon de l'ischio-jambier droit et sera absent entre 4 et 6 semaines, a annoncé mercredi le club saoudien. Neymar, transféré du Paris Saint-Germain en Arabie Saoudite pour 60 millions d'euros en 2023, a été absent pendant plus d'un an jusqu'au mois dernier à la suite d'une opération au genou droit. Le coach du club saoudien, Jorge Jesus, avait annoncé plus tôt dans la semaine l'absence de Neymar aux entraînements au moins pour les 2 prochaines semaines à la suite de sa blessure.
Merci Eric.
À votre avis, une émission interactive sur VOA Afrique. Du lundi au vendredi, micro ouvert sur l'actualité brûlante, les sujets sociaux et culturels. Enregistrez vos réactions sur WhatsApp +1 202 297 60 89. Participez en nous contactant sur notre page Facebook ou appelez-nous en direct à partir de 18h05, temps universel, au +1 202 205 26 33. À votre avis, la parole est à vous, tous les jours, sur VOA Afrique.
C'est ici que s'achève cette édition du Monde aujourd'hui. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mamadou Oumfa, Michel Joseph à la réalisation. Ainsi va le Monde aujourd'hui. L'info continue 24h sur 24 sur notre site web voaafrique.com ainsi que sur nos différentes plateformes digitales Facebook, YouTube, X et Instagram. À très bientôt sur VOA Afrique.